Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à tous. Elle est cardiologue par vocation et écrivaine par passion, une double casquette pas toujours facile à assumer. Justement, ma femme d'aujourd'hui va écrire sur ce qu'elle connaît le plus, les hôpitaux, les médecins et le contact humain.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Saad Jamaï, bonjour et merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, vous voulez qu'on vous présente comment ? Est-ce qu'on vous présente en tant que médecin et auteur ou auteur et médecin ? Qu'est-ce que vous
D'abord, médecin.
Ok.
Alors, sans hésiter.
Pourquoi ? Parce que c'est une passion, la médecine ?
Parce que c'est une passion que j'exerce depuis des années, parce que depuis très jeune, je voulais être médecin et que c'est mon métier, c'est ma passion et cette passion qui m'a inspiré tous mes livres, puisqu'ils se déroulent tous dans le monde médical.
C'est ça. Pourquoi vous avez besoin d'écrire autour du monde médical, justement, ce HMA, et des romans, de la fiction ? C'est quoi exactement ?
Non, en fait, c'est pas que j'ai besoin d'écrire sur le plan médical. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. J'ai besoin d'écrire d'abord.
Okay.
Comme j'avais cette envie très forte d'écrire, je me suis dit le mieux, c'est d'écrire sur le monde médical parce que j'avais besoin d'une légitimité. Et quand on a besoin d'une légitimité, on cherche à écrire surtout sur ce qu'on connaît le mieux. Et donc, la vie d'un médecin, le fait de croiser beaucoup de patients, beaucoup de situations, c'est un terreau assez fertile pour écrire. Donc, forcément, je n'avais pas besoin d'aller chercher plus loin.
Mmh. En fait, c'est très bien ce que vous dites parce que on a l'impression que les médecins sont immunisés contre la vie privée de leurs patients. Est-ce que c'est vrai ? Parce que quand la maladie arrive, ce qu'elle touche avant tout, c'est la vie privée, la sphère personnelle de la personne. Pardon. Alors, justement, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis ou pas ?
Oui. En fait, ce qui se passe, il faut comprendre que moi, je suis passée d'un hôpital en Europe, en France, à un cabinet privé au Maroc. Donc il y a eu deux changements, changement de pays et changement de situation de travail. Et il est clair que quand on est médecin et qu'on travaille en France, qu'on court à droite à gauche dans les urgences, qu'on n'a pas de temps à perdre, on ne donne pas beaucoup de temps à aller aux états d'âme et à la façon dont le patient vit. On prend d'abord le temps d'écouter ses plaintes médicales et essayer de trouver un diagnostic et de traiter. Au Maroc, c'est différent pour deux raisons. D'abord parce que quand je suis arrivée au Maroc, j'étais dans le secteur privé, donc dans mon cabinet, à gérer mon temps comme j'en avais envie, premièrement. Deuxièmement, je me suis retrouvée face à des patients qui, eux, mettaient en avant leur situation psychologique, leur situation familiale, sociale, au même plan que les plaintes médicales. C'est-à-dire que j'ai ressenti que le besoin du patient était autre. Il avait besoin qu'on l'écoute, qu'il dresse un petit peu un décor de sa vie avant de parler de ses plaintes médicales. Et moi, je trouve ça très, très intéressant parce que d'abord, ça nous permet de connaître le contexte du patient et puis surtout, ça nous permet de nous rapprocher du patient et de connaître un peu mieux le contexte de sa maladie.
C'est important à connaître pour un médecin, justement, cette sphère privée de son patient ?
Mais absolument. On sait très bien que le psychisme, l'état psychique et l'état médical, pathologique, tout ça, c'est intriqué. On ne peut pas faire abstraction. L'être humain, ce n'est pas qu'un cœur. Bon, moi, je suis cardiologue. Je ne vais pas m'intéresser qu'au cœur. Je m'intéresse à tous les organes de l'individu, mais surtout son mental, sa façon de raisonner, son état psychologique, son état de stress, parce que c'est évident que la façon dont on vit, les règles hygiéno-diététiques, le fait d'être stressé ou non, la charge de travail, la charge psychologique, tout ça influe sur le cœur et sur d'autres organes. Cela a été prouvé, c'est évident. Donc moi, j'ai besoin de connaître le patient dans sa totalité.
Alors, on va revenir justement à ces années avant la médecine, parce que vous avez dit, je suis avant tout médecin. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Pourquoi vous avez toujours rêvé d'être médecin ? Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être cardiologue ?
Bah, écoutez, j'ai d'abord rêvé d'être médecin. Vous savez, c'est quand on fait nos études, on passe d'un stage à l'autre. C'est comme ça qu'on sait si on a envie de faire ceci ou cela. Donc, c'est avec quand on touche à certaines pathologies, à certaines techniques médicales, thérapeutiques ou diagnostiques, que l'on sait ce qu'on va aimer ou ce qu'on ne va pas aimer. Donc, ça, c'est une évolution qui vient bien plus tard. Mais le fait d'avoir envie d'être médecin, ça, je n'arrive même pas à me rappeler à quel moment ça a commencé, tellement c'est inhérent à ma personne. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais elle ne s'est pas construite autour de quelque chose. C'était une évidence, c'est tout.
C'est pas forcément lié à une expérience personnelle.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une envie de connaître l'organisme humain de façon plus précise et l'envie d'aider aussi, de protéger, d'essayer le fait de guérir, d'essayer de soigner, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, qui m'a toujours passionnée, ça fait partie de moi.
Alors, c'est pas lié justement à cette grande tendance d'aujourd'hui, de ces séries qui se jouent dans les urgences, dans les hôpitaux.
À mon époque, il n'y avait pas ce genre de séries.
C'est ça. Et vous en pensez quoi, docteur Jamais, justement, de ces séries? Est-ce qu'elles retracent vraiment, si on devait reprendre les Grey's Anatomy, Dr House et compagnie?
Eh bien, écoutez, je pense que je suis placée pour en parler parce que ma fille a grandi avec ces séries et elle a, grâce à ces séries, je ne pense pas que ça soit l'influence de sa mère, mais grâce à ces séries, elle a un peu imaginé ce monde de façon un peu plus positive. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intrigues.
Plus glamour, en fait.
Plus glamour, que ça lui a donné envie de faire médecine. Mais elle s'est vite rendue compte que ce côté glamour... n'existait pas réellement, mais il est évident que ces séries ont beaucoup influencé les jeunes, c'est normal, comme les séries sur les avocats, comme toutes les séries qui parlent d'un métier en particulier. Maintenant, est-ce qu'ils montrent tous les côtés? Je pense que tout est un petit peu modifié, manipulé, le but est autre.
Absolument. Alors, s'il y a aussi une autre question assez liée à votre spécialité qui fait beaucoup parler ces dernières années, c'est l'expérience de mort imminente, l'EMI. Est-ce que, en tant que cardiologue, scientifiquement, est-ce que c'est quelque chose de vérifié? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ça dans votre profession?
Moi, personnellement, non. C'est pas du tout. Je pense que les anesthésistes réanimateurs sont plus aptes à avoir... Moi, je n'ai jamais eu de patient m'ayant raconté ce genre d'expérience, mais c'est évident que c'est quelque chose de passionnant. Ça nous interpelle tous, mais je ne me suis pas vraiment intéressée à ce sujet.
D'accord.
Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le transhumanisme.
C'est-à-dire?
Alors, le transhumanisme, c'est le sujet de mon dernier roman. En fait, c'est une culture qui prône l'usage de toute la technologie existante pour améliorer le mental et le physique de l'être humain. En fait, c'est une sorte de dopage du futur, le transhumanisme, si on veut le résumer ainsi. Et donc...
C'est de la science-fiction ou...
C'est pas de la science-fiction.
Non, c'est un vrai mouvement.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe, c'est une sorte c'est du dopage à l'extrême, poussé à l'extrême, qui peut même dépasser les objectifs de départ. Et dans mon livre, justement, dans le serment du dernier messager, je parle de toute la technologie qui existe actuellement, enfin, qui existe jusqu'en 2020, des faits scientifiques réels, que je projette dans le futur en leur donnant un effet pervers pour sonner une petite alarme, disons, mais sous forme d'intrigue et de thriller.
C'est ça. Alors, justement, vous avez dit tout à l'heure, j'ai cherché une crédibilité, c'est ça? Vous avez parlé de crédibilité?
Légitimité,
voilà, absolument.
Crédibilité, non, parce que les côtés scientifiques, je vais vraiment au bout des choses, je ne prends pas des événements de départ. Non, ce sont des événements avec des références bien précises. Par contre, légitimité, c'est me donner le droit d'écrire. Vous savez, quand on n'a pas de formation littéraire, on a l'impression qu'on n'a pas ni les outils ni le droit d'écrire. Et je me suis dit, puisque j'ai envie d'écrire, je vais écrire sur un domaine que je connais mieux que d'autres, c'est-à-dire que dans le monde médical. C'est pour ça que je cherchais une légitimité. Au lieu de parler d'histoire et retenir des choses de l'histoire pour ne pas faire les mêmes erreurs, j'ai préféré me mettre en avant quelques années plus loin dans l'avenir pour justement montrer ce qui risque de se passer si on continue dans le sens médical que je décris dans mon livre.
C'est ça.
Je préférais prévenir plutôt que prendre des leçons de l'histoire ancienne. Voilà.
Ok, en fait, c'est une forme de sonnette d'alarme en fait, votre
livre. C'est une dystopie. C'est le but de toutes les dystopies, c'est de décrire un monde qui risque d'arriver, mais qu'on peut éviter en lisant, en se renseignant, en comprenant les phénomènes actuels et ne pas les laisser évoluer dans le sens pervers. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans votre pratique et que vous avez retracé dans ce roman ?
Alors il y a beaucoup de phénomènes. Alors l'un des premiers qui a un petit peu donné l'envie d'écrire, qui a été un petit peu le déclencheur de l'écriture de ce livre, c'est l'apparition en 2017 de cabines connectées. Cabines connectées qui ont été créées par une start-up à San Francisco. Et ces cabines connectées, en fait, elles ont été créées pour essayer de remplacer le médecin. Et toute la technologie radio, analyse de sang, est gérée par une intelligence artificielle et des questions qui ont leur réponse avec un cheminement à suivre pour un diagnostic et un traitement. Et dans mon livre, donc, je prends cet élément et d'autres éléments que je pousse un petit peu à l'extrême. Et dans le livre, je parle d'assurance qui offre des cabines connectées aux médecins pour les sortir de leur cabinet et essayer de les manipuler à travers cette intelligence artificielle et ces organigrammes décisionnels pour un petit peu leur enlever leur libre arbitre. Bon, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, ces cabines connectées. Donc, je vais plus loin. J'imagine le monde rempli de ces cabines connectées. Et l'objectif, c'était de montrer le danger de la déshumanisation, de laisser une machine gérer un diagnostic et un traitement face à un humain, et la détresse que cela peut entraîner. Alors, il y a eu d'autres...
Mais ça n'a rien à voir avec la télémédecine.
La télémédecine, c'est autre chose. C'est quelque chose qui se fait via un écran pour poser des questions, essayer de trouver un diagnostic. Mais bon, par exemple, en cardiologie, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas faire un électrocardiogramme avec 12 dérivations. Bien sûr, il y a des montres connectées maintenant qui font un électro d'une seule dérivation. Il faut que les gens comprennent qu'une dérivation, on ne fait aucun diagnostic. Il en faut 12. Il faut 12 électrodes sur le thorax. Bon, tout ça, c'est des questions techniques. Mais beaucoup de gens essayent de s'approprier certaines applications pour pouvoir s'auto-surveiller. Ce qui est bien, parce que j'ai remarqué que les gens qui utilisaient ce genre d'outils faisaient beaucoup plus attention à leur santé, au nombre de pas marcher, au nombre l'activité en général, la façon de manger, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça soit poussé à l'extrême. Et justement, dans mon livre, je parle de personnes qui sont carrément manipulés avec une dictature de certaines applications qui leur imposent de se lever même s'ils sont malades, qui leur imposent enfin qui gèrent tout. Donc je pousse un petit peu, je sais pas si vous connaissez la série Black Mirror. Mm-hmm. C'est une série.
Je l'ai démarrée, je l'ai pas continuée. Elle était assez.
C'est assez dur. Alors c'est vrai. C'est pas une série en fait. Ce sont des petits films de 45 minutes qui sont indépendants. Donc vous pouvez en voir un, il n'y a pas de suite logique.
D'accord.
Ils sont complètement indépendants. Mais j'ai beaucoup aimé le principe. En fait, vous prenez un événement scientifique ou non, une technologie, qui est poussée à l'extrême. Par exemple, une des séries montre un père qui a une application qui permet à travers un œil posé dans le téléphone de sa fille, de voir à travers cet œil tout ce qui se passe dans son environnement 24 heures sur 24.
Ce qui intéresserait beaucoup de parents, justement.
Oui, ben justement, alors ce sont des choses qui existent, mais Black Mirror les a fait pousser à l'extrême pour montrer le côté obscur et dangereux de toute cette technologie. Et il faut savoir que 30% des choses qui sont, enfin des événements qui sont racontés dans Black Mirror, parce que cette série existe depuis 10 ans, se sont déjà vérifiés. Et donc on est vraiment dans le transhumanisme, dans la technologie à outrance, sans en mesurer les effets des effets nocifs.
Pervers, peut-être,
oui. Oui, voilà. Alors, un autre exemple, par exemple, dont je parle dans mon livre, c'est une histoire de... Il y a quelques années, il y a deux femmes qui sont des chimistes reconnues, qui ont eu des prix pour leurs travaux. Elles ont découvert ce qu'on appelle le couteau génétique, le couteau suisse génétique, qui s'appelle le CRISP. Alors cet outil permet de couper les gènes là où on veut et enlever donc les gènes qui codent pour des choses qui nous dérangent et mettre à la place des gènes qui codent pour... une super intelligence, un excès de muscles, une grande taille, enfin tout ce qu'on veut. Et quand elles ont fait cette découverte, elles ont demandé un moratoire. C'est-à-dire qu'elles étaient tellement époustouflées par leur propre découverte et inquiètes qu'elles ont demandé à ce que tout s'arrête pendant quelques années jusqu'à ce qu'on crée des limites à cette technologie. Le problème, c'est que des gens qui étaient des laboratoires indépendants ont utilisé cette technique, ils l'ont volée, et puis ils ont commencé à l'utiliser sans surveillance de l'FDA ou de l'OMS ou de tous ces organismes qui sont là pour surveiller et veiller au non-dépassement de la technologie. Et donc, moi, j'ai imaginé ce qui pourrait se passer avec justement cette technologie. Donc, tous les faits scientifiques que je prends sont des faits réels, et je les projette quelques années plus tard. Et tout ça pour montrer quelle est la place de l'humain et de son libre arbitre, de son pouvoir de décision, et surtout la place des sentiments chez le médecin ou chez les autres personnes, qu'ils soient médecins ou patients. Donc c'est un petit peu ça le thème du livre.
Alors, docteur Jamais, justement, lorsqu'on est cardiologue, et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la perception de beaucoup de personnes, c'est qu'on côtoie beaucoup la mort. Est-ce que c'est vrai?
Alors, vous voulez dire dans le monde médical ou
dans le monde médical, absolument.
Oui, alors ça c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, parce que quand on parle d'études de médecine ou de médecins, on dit toujours « Ah non, non, mais médecine, c'est très dur, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il faut passer son temps à étudier. » Et là, c'est quelque chose qui m'énerve profondément, parce que ce n'est pas... Comme toutes les études, il faut apprendre, il faut travailler, il faut raisonner, mais le plus dur dans la médecine, c'est absolument pas d'intégrer les notions scientifiques. Le plus dur, c'est la charge mentale et la charge physique.
Après,
pendant les études, quand vous êtes en stage dans un service, que l'après-midi, vous avez un cours, et que la nuit, vous êtes de garde, et que le lendemain, vous devez enchaîner de nouveau à l'hôpital, et que le surlendemain, vous avez un examen, 48 heures sans dormir, c'est une charge physique énorme, et sur le plan émotionnel, c'est encore plus dur, parce que vous côtoyez la mort, la maladie, la souffrance à longueur de journée. Alors, quand les gens disent, ouais, les médecins, je crois que l'envie d'écrire est venue, j'ai commencé en 2016, fin 2016, parce que je sentis que cette profession commençait à être dénigrée, et ça me peinait profondément. Et j'avais envie de montrer le vrai visage du médecin et de la médecine. Mais le problème, c'est que, comme dans toutes les spécialités, dans tous les domaines, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 ou 5% de la profession qui ne font pas bien leur métier, qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui sont avides d'argent, pour que ça déteigne sur tout le reste de la profession. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, dans le journalisme, dans le métier des avocats, dans tout. Et donc, je me suis dit, non, il faut que j'écrive pour que les gens comprennent que le médecin, c'est autre chose. En tout cas, au départ, c'est autre chose. Certains peuvent peut-être dévier, mais je pense que ceux qui sont honnêtes et travaillent sérieusement font quand même partie de la majorité actuellement, mais sauf qu'on n'en parle pas. Comme je dis toujours, un verre qu'on range ne fait pas de bruit, mais 100 verres qu'on range ne font pas de bruit, mais un seul verre qui tombe et qui se casse fait beaucoup de bruit et de tapage. Et ce que j'ai voulu faire aussi, j'étais accompagnée par une équipe de médecins extraordinaires, c'est qu'on a monté en scène le premier livre, Un toubib dans la ville, et on en a fait une pièce de théâtre dont tous les comédiens sont médecins. Donc on retrouve 20 médecins sur scène, Et je pense que ça a contribué à donner une autre image du médecin, à montrer qu'il est capable de poser sa blouse, de monter sur scène, de ne pas prendre au sérieux, de ne pas se prendre au sérieux. Et tout ça, on l'a fait dans un but humanitaire, dans le sens où on a gagné beaucoup d'argent et que tout cet argent a été remis à une association qui s'appelle Pour le cœur d'un enfant et qui opère des enfants porteurs de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire de maladies cardiaques à la naissance. Et ils ont pu être opérés grâce à l'argent qu'on a gagné avec notre pièce de théâtre. Et c'était des enfants démunis. Donc, on a ri, on a fait une bonne action, on a changé l'image un petit peu du médecin. Donc, je pense que notre objectif a été atteint. Donc, tout ce moteur de tout ça, c'est un petit peu changer l'image du médecin. Parce que pour moi, on peut être sérieux, faire un travail au sérieux, mais il faut jamais se prendre au sérieux. La vie est trop courte pour se prendre au sérieux.
Ça, j'adore votre mantra, en fait.
Bah, merci, merci.
Merci à vous, docteur Saad Jamie. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour cette belle discussion.
À
très vite.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.